RRB pour être au cœur de l'actualité.
Il est midi, c'est l'heure de retrouver Lionel Sabot et toute l'équipe d'RRB pour Info Weekend.
Un peu plus de trois mois après sa prise de fonction, le général Aouchine, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, était vendredi midi l'invité de Transparence, extrait dès le début de ce journal. Quatre communes, Canala, Thiau, Yatté et le Mont-d'Or en vigilance orange, forte pluie et orage. Les conditions météorologiques resteront très instables au cours des prochaines heures et des prochains jours. Le projet de loi de finances arrive à l'Assemblée nationale. Les discussions vont commencer en commission des finances. Les semaines qui arrivent s'annoncent compliquées pour le gouvernement. La mise en œuvre de l'accord de paix au Proche-Orient se poursuit. Le Hamas a restitué à Israël les corps d'otages morts à Gaza après l'attaque du 7 octobre 2023. Le sport en Calédonie, Gabriel Espada s'est imposé sur le Trail Shell Pacifique qui s'est couru ce matin à Dimbéa. 860 participants ont été réunis au Parc Fayard. Et puis du football en métropole et Marseille qui a pris seul les commandes du championnat de France de Ligue 1. Ce matin, les Phocéens se sont imposés 6-2 sur le Havre. Bonjour, excellent week-end, soyez les bienvenus dans ce journal. Une force tranquille qui va partout. C'est ainsi que le général Aouchine a défini la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Un peu plus de trois mois après sa prise de fonction, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie était vendredi midi votre invité dans le magazine Transparence, Elisabeth Noir.
Le général Aouchine est arrivé en juillet dans un territoire encore traumatisé par les violences insurrectuelles de mai 2024. Et il constate que cela est encore très présent dans les esprits. Mais quand on l'interroge sur le type de délinquance que connaît la Nouvelle-Calédonie, il estime qu'il n'y a pas de délinquance de type politique. C'est une délinquance plutôt ordinaire, assez molle, dit-il, pas très différente de ce que l'on peut trouver en métropole ou ailleurs outre-mer.
Nous avons affaire à une délinquance plutôt ordinaire, comme celle que l'on peut retrouver dans les quartiers ou dans les zones difficiles de la métropole. Pas plus, pas moins, une délinquance assez jeune, très désinhibée. Quand je parle de délinquance jeune, cela peut aller jusqu'à 10, 11, 12 ans, lorsqu'on nous jette des pierres, par exemple, ou pire, lorsqu'on va cambrioler. Donc une délinquance désinhibée, mais j'allais dire extrêmement violente, qui fonctionne de façon autonome, et j'allais presque dire qui s'inspire d'elle-même et de ce qu'il y a pu y avoir avant. Mais d'une manière générale, je ne vois pas d'idéologie dans l'adversité à laquelle nous faisons face. C'est d'ailleurs une adversité, somme toute, qui peut rester dangereuse, mais assez molle.
La société calédonienne est violente, mais cela correspond à ce que l'on peut trouver dans d'autres sociétés ultramarines, estime le général Aouchine, qui relève le poids de l'alcool, un fléau et un facteur aggravant. Nous lui avons demandé s'il comprenait que, malgré l'apaisement, les Calédoniens se sentent souvent en insécurité.
Moi, je ne veux pas avoir un discours moralisateur vis-à-vis des Calédoniens qui m'ont très bien accueilli, mais qui m'ont tous toujours dit que la population, d'une manière générale, avait souffert et a souffert. Les gens ont eu peur, il faut le comprendre. Donc, je ne vais pas chercher à essayer de les convaincre qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. Je vais simplement leur dire et leur démontrer ce que nous avons fait depuis mon arrivée. J'ai réinterrogé l'ensemble des dispositifs. Je souhaite que nos dispositifs soient extrêmement visibles de la population, mais imprévisibles pour l'adversaire. Vous avez noté qu'au mois de septembre, avec les mêmes moyens que ceux du mois de mai précédent, on a pu faire la démonstration qu'il est tout à fait possible de pacifier le territoire et surtout d'avoir une action suffisamment dissuasive pour cette délinquance désinhibée, non idéologisée à mon sens, mais qui génère, et je peux le comprendre, du trouble au sein des populations. Enfin, ce n'est pas normal d'être caillassé dans une voiture, enfin, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Donc aucun renoncement sur ce sujet-là. Alors, il ne s'agit pas de déclaration. Ça, ce sont des choses que nous faisons au quotidien.
Et dans ce contexte, la gendarmerie doit être très présente sur le territoire. Son commandant parle d'une force tranquille qui va partout.
Je pense que l'élément déterminant sur ce territoire, c'est de montrer aux Calédoniens que la force est là, mais je souhaiterais dire ici que c'est une force tranquille. Les dispositifs sont déployés, tout le monde l'a constaté, beaucoup de gens me l'ont dit, et je demande à chacun de mes gendarmes, territoriaux ou mobiles, d'aller vers les populations, quelles qu'elles soient, caldoches, européennes, et également dans les tribus. Pour ne parler que des tribus et des contacts avec les coutumiers, ce que je peux vous dire, c'est que depuis la fin du mois de septembre, nous sommes à peu près à une cinquantaine de contacts ou de rencontres de tribus par semaine. Gendarmes mobiles, gendarmes territoriaux. Donc, je mets beaucoup d'importance dans la relation avec les coutumiers, tout en expliquant aux autorités coutumières que le droit et la loi passera et qu'on peut attendre. Il y a des pas de côté à faire, mais à un moment, lorsque ce n'est pas possible, eh bien, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Il faut dire les choses. Les autorités coutumières peuvent nous aider. Soit elles nous aident, soit elles ne nous aident pas. Généralement, elles nous aident. Quand elles ne nous aident pas, eh bien, la gendarmerie fait son travail. Mais d'une manière générale, nous allons partout. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je vais partout.
Aller vers les populations et aller partout, ce sont les consignes données à ces gendarmes par le général Aouchine. Interrogé sur la situation de la tribu de Saint-Louis, il tient à préciser qu'il y va très souvent.
Lorsque nous rentrons dans la profondeur de ces territoires, en particulier la tribu Saint-Louis, parfois on n'est pas les bienvenus, on prend quelques caillassages, mais on ne se laisse pas faire, on ne renonce pas, on y va. C'est déjà une nouveauté, c'est déjà un plus. Vous avez noté également que j'ai souhaité que le dispositif autour de la tribu Saint-Louis soit davantage comprimé pour me donner de la capacité de réaction en cas de difficulté. Je peux vous dire que ça a été le cas le soir de la levée de deuil du 19 au 20 septembre. Mais écoutez, ça a été réglé, j'ai envoyé 3 escadrons de gendarmerie mobile et un escadron blindé, ça a duré 30 minutes. Donc ça fonctionne. Et le deuxième point que je voulais dire aussi, c'est que le commissaire nous demande d'être là où il faut quand il faut, mais la tribu Saint-Louis, c'est quasiment de façon permanente. C'est même permanent, mais de manière différente. Je veux absolument conserver de la souplesse dans le dispositif et je demande aux gendarmes mobiles, mais aussi aux gendarmes départementaux, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de reprendre pied sur cette partie du territoire, parce que en rencontrant les habitants de Saint-Louis, mais surtout du Mont d'Or, de l'autre côté, ils m'ont raconté ce qu'ils ont vécu, c'est pas admissible. Donc ne les laisse pas tomber.
Le commandant de la gendarmerie a évoqué aussi les effectifs importants dont il dispose. Il estime en avoir encore besoin et il confirme qu'ils sont maintenus pour le moment, tout comme les matériels blindés ou hélicoptères qui sont sur place. Il est aussi revenu sur les énormes contentieux judiciaires liés aux émeutes de 2024.
Globalement, je dirais qu'une bonne majeure partie du contentieux lié aux émeutes et en particulier des commanditaires de second niveau est en bonne voie, est vraiment en bonne voie. Les personnes qui devaient être présentées à la justice l'ont été et le sont encore. Mais j'ai donné un petit coup d'accélérateur sur ce contentieux. Il est important, il y en aura toujours encore un peu, c'est certain, mais il faut regarder au-delà. Et au-delà, c'est se poser les bonnes questions pour cette île. Qui a intérêt à déstabiliser l'île? Pourquoi? Quels sont les circuits financiers? Où vont-ils? Quel est l'état des trafics d'armes? Quel est l'état des flux financiers? Ça, ce sont de vraies questions. Mais c'est à celles-ci qu'il va falloir commencer à répondre maintenant.
Nous avons enfin demandé au général Aouchin s'il se sentait prêt à faire face à un épisode violent comme celui que la Calédonie a connu l'an dernier, s'il l'envisageait et si c'était l'une de ses préoccupations.
Je vous mentirais si je vous disais qu'en tant que commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, je n'y pense jamais, c'est pas vrai. J'y pense tous les matins, j'y pense tous les soirs. Et quand j'y pense pas, on se charge bien de me le redire. Pour autant, je considère que le rapport de force est clairement établi. Je considère que les forces en présence sont là. Je considère que l'adversité est plus que contenue. Je considère disposer de suffisamment de moyens d'anticipation, de surveillance, d'interception, voire de réaction pour faire face à tout trouble à l'ordre public. Ça, c'est une certitude. Après, il ne faut jamais insulter l'avenir. Il faut toujours rester humble face aux événements. Mais pour autant, je suis quand même assez serein sur notre capacité à faire face.
Le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie qui conclut en expliquant que son rôle est de garantir la liberté de l'action publique et notamment de permettre l'expression politique dans les conditions prévues et non pas dans la rue.
Le général Aouchin, invité de Transparence, une émission que vous pourrez réentendre dans son intégralité ce soir après notre édition de 17h45. Émission qui est également disponible en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.fr. NC. Dans l'actualité ce midi également, environ 150 personnes ont participé hier au Mont d'Or à une marche blanche en hommage à un homme de 32 ans tué par balle le 20 septembre dernier à Ploum au cours d'une intervention de la gendarmerie. Le procureur de la République de Nouméa a confirmé vendredi soir dans un communiqué que l'autopsie du corps de la victime avait révélé la présence dans la tête d'un projectile balistique de calibre 9 mm. Les tirs étaient intervenus en marge d'une intervention de la gendarmerie lors d'une rixe de devant une maison de Ploum. Un gendarme a été placé sous le statut de témoin assisté. Une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravée par l'usage d'une arme, a été ouverte. Elle a pour but et pour objectif à la fois de déterminer les causes du décès et les circonstances exactes de l'usage de l'arme par le gendarme mobile. Dans son communiqué, Yves Dupin indique que les investigations sur les faits mettant en cause le gendarme se poursuivent. Le procureur qui indique par ailleurs que les proches de la victime qui s'interrogent sur le fait d'avoir placé le gendarme sous le statut de témoin assisté ont accès au dossier et qu'ils pourront, écrit Yves Dupas et je cite, solliciter auprès du magistrat instructeur des actes d'enquête. Fin de citation. En bref, toujours, les services de Météo France ont placé ce matin 4 communes, Canal, Athio, Yaté et le Mont-d'Or, en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Un épisode pluvieux et orageux, inhabituel pour la saison, se met en place, indiquent les services météorologiques. Un axe de basse pression s'installe durablement sur la Nouvelle-Calédonie, engendrant un risque pluvieux-orageux, principalement sur l'extrême sud et le sud de la côte est. La nuit dernière, déjà, des cumuls de l'ordre de 100 à 150 mm ont été relevés entre Yaté et Goro, accompagnés d'une forte activité électrique. Les conditions météorologiques resteront très instables au cours des prochaines heures et des jours prochains. Des cellules orageuses actives accompagnées de fortes averses pourraient encore toucher le sud de la côte est et l'extrême sud. Météo France indique par ailleurs que de fortes ravales de vent sont possibles sous les orages les plus actifs. Les communes de Dimbéa, Wailou, l'île des Pins, Lifou, Marais, Ouvéa, Nouméa, Païta et Kouawa sont-elles en vigilance jaune, forte pluie et orage. Soyez extrêmement prudents dans toutes ces régions, notamment si vous devez prendre la route. Allez, quelques mots de l'actualité festive avec à Koumac les journées du patrimoine au vieux village de Thiébagui qui se poursuivent jusqu'à 14h. Découvertes, traditions et convivialité auront été au cœur de ce week-end. Satisfaction pour Didier Fontes, c'est le président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord-Calédonien.
Pour nous, c'est vrai que la journée du samedi a rempli toutes nos attentes puisqu'on a eu beaucoup de monde, une affluence record. En plus, il a fait beau, donc tous les éléments étaient réunis pour que ce soit une très belle journée. Pour ce matin, donc les arrivées sont un peu plus timides, mais on a une équipe de marcheurs qui font le sentier botanique sur le plateau. Donc pas mal de personnes également qui assistent à la visite qui a démarré à 9h ce matin. Et donc, nous, on est au centre de restauration, on attend que tous ces gens-là reviennent au club. Bon, c'est sûr que le dimanche, ça a toujours été un peu plus calme que le samedi. On a fait carton plein déjà pour le samedi.
Donc, vous êtes quand même relativement content.
Ah oui, tout à fait. Au-delà de nos espérances, d'ailleurs.
Des propos recueillis par Marie Romain, les journées du patrimoine au vieux village de Thiébagui se poursuivent jusqu'à 14h. Et puis à Nouméa, et pour les sportifs, à noter que c'est la dernière ligne droite pour le BNC Sport Festival qui se déroule depuis hier sur l'Ansvata. 16 disciplines qui se pratiquent en mer, mais aussi sur la plage, sont représentées. Des initiations sont possibles tout au long de l'après-midi dans une ambiance festive. Il est midi et 12 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
Vos agendas 2026 sont disponibles dès maintenant chez Bureau Vallée à partir de 175 francs. Avec les agendas semainiers Quo Vadis, profitez d'une mise en page claire, d'une organisation pratique et d'une fabrication française au service des pros.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
12h12, la suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole. D'autres systèmes de retraite sont possibles, ce sont les mots du nouveau ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, dans une interview à la presse quotidienne régionale. Déclaration alors que de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux vont débuter après l'annonce de la suspension de la réforme d'Elisabeth Borne. Le ministre du Travail qui évoque notamment la possible réintroduction du système à points qui avait été abandonné en 2020, mais aussi la piste d'une retraite par capitalisation. L'introduction d'une part de capitalisation serait une nouvelle contrainte pour l'équation budgétaire déjà complexe de la France. Situation qui, vous le savez, a conduit l'agence de notation Standard & Poor's à abaisser une nouvelle fois la note de la France. Dans ce contexte, Roland Lescure, le nouveau ministre de l'économie, a bien l'intention de doter la France d'un budget 2026 responsable.
C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité. Donc effectivement, ça va demander des efforts. Et au fond, c'est ce que nous dit l'agence Standard & Poor's aujourd'hui. Nous, on a déposé un projet de budget pour 2026. Le projet, il vise à accélérer la réduction du déficit public à 4,7% du PIB. Ce budget, évidemment, il faut qu'il soit voté. C'est vraiment à nous. Et quand je dis nous, c'est à la fois le gouvernement et le Parlement de convaincre les investisseurs et les agences de notation.
Roland Lescure, le nouveau ministre de l'économie qui réagissait sur Europe 1 à cette nouvelle dégradation de la note de la France par l'agence Standard & Poor's. Une dégradation qui met le Premier ministre à nouveau sous pression. Sébastien Lecornu qui aura eu moins de 48 heures de répit après le rejet des deux motions de censure initiées par le Rassemblement National et la France Insoumise. Et les prochaines semaines vont s'annoncer particulièrement denses pour l'exécutif. Jacques Sauret pour Europe 1.
Sébastien Lecornu a sauté la première et la course contre la montre ne fait que débuter. L'Assemblée a maintenant 50 jours, soit jusqu'à début décembre, pour examiner le projet de budget de la Sécurité sociale qui comprendra notamment l'amendement de suspension de la réforme des retraites. Les parlementaires auront un peu plus de temps, 70 jours jusqu'aux vacances de Noël pour examiner le projet de budget de l'État. Des délais très serrés, difficiles à tenir alors que les députés vont vouloir déposer un grand nombre d'amendements pour défendre leur position. Et cette fois, pas de 49-3 pour mettre fin au débat. Sébastien Lecornu s'y est engagé. Conséquence, Matignon pourrait être tenté de faire passer les projets de budget initiaux par ordonnance. Autre voie de passage pour le gouvernement, le recours à une loi spéciale pour continuer à percevoir les impôts existants, exactement comme l'an dernier, après la censure du gouvernement de Michel Barnier.
Jacques Sauret du service politique d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, direction le Proche-Orient, dans le cadre de l'accord de paix signé la semaine dernière entre Israël et le Hamas. Le groupe terroriste islamiste s'est engagé, vous le saviez, à rendre les corps de tous les otages encore présents à Gaza. Et de nouvelles restitutions ont eu lieu ces dernières heures. Frédéric Simon pour Europe 1.
Deux corps ont été restitués par le Hamas au cours de la nuit. L'Institut médico-légal israélien devrait établir s'il s'agit bien de dépouilles d'otages morts en détention. Mais quels que soient les résultats de l'analyse, on constate que l'organisation terroriste continue de remplir que partiellement les engagements qu'elle avait pris en signant l'accord sur la mise en œuvre du plan de paix américain, soit la libération des 20 otages vivants, c'est chose faite depuis lundi dernier, mais aussi la restitution des 28 dépouilles d'otages morts dans la bande de Gaza. Or, elle en détient encore 16 en réaction. Benjamin Netanyahu a annoncé que le point de passage de Rafah, situé sur la frontière entre le territoire gazaoui et l'Égypte, restera fermé. Une annonce qui n'aurait pas été du goût de l'administration américaine. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias israéliens. Les États-Unis qui entendent peser de tout leur poids pour que les prochaines phases de l'accord soient mises en œuvre par toutes les parties en présence. Dans cette perspective, le vice-président J.D. Vance se rendra en Israël dans les tout prochains jours. Il sera accompagné par Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, qui avait joué un rôle de premier plan dans la conclusion de l'accord sur la libération des otages et la fin de la guerre dans la bande de Gaza.
Frédéric Simon, le correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. J'ajoute que Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a annoncé ce matin que la guerre prendrait fin après la seconde phase du plan qui comprend le désarmement du Hamas. Le premier ministre israélien qui a également annoncé qu'il briguera un nouveau mandat de premier ministre lors des prochaines élections en Israël. Et puis toujours au Proche-Orient, l'Iran affirme qu'il n'est plus tenu par aucune restriction liée à son programme nucléaire, conséquence de l'expiration d'un accord international conclu il y a 10 ans, notamment avec la France et les États-Unis. Téhéran soupçonnait de développer secrètement l'arme atomique par plusieurs pays occidentaux qui réitèrent dans le même temps son engagement pour la diplomatie. Il est 12h18, on marque une dernière pause dans ce journal, dans un instant toute l'actualité sportive.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et Le Sport en Calédonie, une belle participation pour le trail Shell Pacific Sport Santé de Dimbéa. L'événement se déroulait ce matin au départ du parc Fayard. Michael Geneski.
Oui, plus de 860 participants étaient réunis sur les différents parcours proposés, des sportifs aguerris ou des coureurs occasionnels qui souhaitaient prendre part à ce rendez-vous en vue de promouvoir avant tout le bien-être à travers la pratique régulière d'une activité physique.
C'est pour pratiquer une activité sportive et bouger un peu.
On aime ça et pour découvrir aussi un peu le coin. Voilà, on anime le sport et la découverte en même temps.
Comme c'est pour la cause de l'association des handicapés de Dimbéa, du coup on s'est dit c'est une cause qui mérite d'être défendue, qu'on va tous participer. Et on a choisi la randonnée des 6 km parce que les enfants de moins de 6 ans peuvent participer.
Ben, j'aime bien et tout, c'est bien pour la cause des handicapés.
Ouais, à fond.
Oui, c'est parfait.
Ben oui, c'est parfait.
La bonne humeur.
Ah oui, ça, c'est super.
Il fait beau, enfin, il pleut pas, du coup on profite.
Exactement, là, il y a une super ambiance. Ouais, c'était super, vraiment.
C'est incroyable, c'est surprenant. On est content de faire ça en famille.
Ah oui, c'est important au quotidien.
On est toujours ravis de faire un événement familial et puis de profiter de la belle ville de Dimbéa et de toute cette belle organisation. On remercie tous les organisateurs pour cette belle journée.
Et du côté des confirmés sur le parcours phare de 33 km, c'est Gabriel Espada, le préparateur physique du RSMA, qui a encore ajouté une ligne à son palmarès en s'imposant en un peu plus de 3h35 d'effort.
Incroyable, on a eu vraiment des sentiers qu'on découvrait, de nouveaux tracés, super bien nettoyés. Il y avait 5 bosses, hein. Sur la 4e bosse, je me suis un petit peu détaché et puis j'ai terminé en solo sur la fin, voilà.
Je n'ai pas l'image, mais faut raconter les chaussures, là, quand même.
Alors voilà, pour expliquer, les chaussures, elles sont ouvertes sur tout le côté gauche, hein. Donc j'ai le pied qui sortait, surtout dans les dévers. Et on termine sur une bonne note avec les 15 derniers kilomètres, avec un pied qui sortait de la chaussure, effectivement.
Gabriel Espada est donc une seule de ses chaussures encore entière à la fin de l'épreuve, qui a devancé Samuel Conan. Angélique Plaire a terminé meilleure féminine. Un trail pour la bonne cause, donc, mis en place par l'association Tarratoni Cycle and Run, et dont une partie des bénéfices sera reversée à l'association Dimbéa Handicap.
Et chez moi, à propos de chaussures, on dit qu'il ne faut jamais mettre deux pieds dans le même sabot. Beaucoup de performances hors du territoire. Il a été très mauvais, je vous l'accorde. Des belles performances également hors du territoire. Et tout d'abord sur les terrains de handball, nos jeunes sélections féminines ont brillé à l'IHF Trophy de la zone Océanie.
Oui, les sélections calédoniennes des moins de 17 ans et des moins de 19 ans qui jouaient les finales. Les moins de 17 ans ont battu les Néo-Zélandaises dans les dernières minutes de la rencontre, 27-25. Et les moins de 19 ans se sont aussi imposés cette fois sur les Australiennes, 30-25. La réaction de Petelo Sealeu, coach des Calédoniennes de moins de 19 ans.
Pour les deux victoires, très fier. On a vu que le travail et l'investissement et les sacrifices ont été faits en amont, en pays. Dans l'ensemble, très beau tournoi. Pour nous, ça a été une découverte. D'après ce que nous, on a vu auparavant, le niveau s'est bien amélioré. On a tourné Tahiti, et c'est Australie et Nouvelle-Zélande qui nous affrontent pour la finale. Donc c'est que le niveau a vraiment progressé. Très fier du travail et très fier surtout du résultat, quoi. Très fier des deux équipes. On va rentrer avec les deux coupes et puis j'espère que pour qui on a travaillé seront fiers de nous aussi. Et des petites surtout.
Nos deux sélections qui font donc le doublé en battant les voisines anglo-saxonnes pour les titres. La compétition se jouait aux îles Cook.
Et encore des compétitions pour nos représentants hors du territoire, Michael.
En triathlon, l'étape finale des mondiaux de Wollongong s'achève ce dimanche. En Australie, des Calédoniens sont encore engagés dans le relais mixte. Et c'est la suite également des Océania de pétanque avec les triplettes, alors que nos représentants ont déjà décroché 5 médailles, dont une en or pour Ernest Ngadae sur les terrains de Wallis et Futuna.
Le sport en métropole et dans le monde à présent avec du football et la suite ce matin de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1. Et l'info du jour, c'est que l'Olympique de Marseille a pris seul les commandes du championnat. Ce matin au stade Vélodrome, les Phocéens se sont imposés 6-2 face au Havre avec un quadruplé de Greenwood. Avec un peu plus tôt ce matin, Lyon s'était imposé 3-2 sur la pelouse de Nice. Enfin, match nul 1-1 entre Angers et Monaco. Cette 8e journée de Ligue 1 se poursuivra demain matin pour nous. À suivre Lens Paris FC, Toulouse Metz, Lorient Brest, Rennes Auxerre et Nantes Lille.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le Top 14, le championnat de France élite et la section paloise qui poursuit son excellent début de saison. Ce matin, dans un choc de la 7e journée, les palois se sont imposés 30-26 sur le stade toulousain. Une victoire acquise dans les tout derniers instants d'un match très disputé. Pau qui prend seul la tête du classement général devant Bayonne qui s'est imposé 44-17 sur Clermont. Les autres résultats de cette 7e journée, Castres s'est imposé 29-24 sur le stade français. Victoire de Montpellier face à Lyon 35-13, de La Rochelle sur Montauban 54-19 et de l'Union Bordeaux-Bègles sur Perpignan 27-12. Cette journée de Top 14 se terminera demain matin pour nous avec une dernière rencontre. Toulon recevra le Racing 92, ce sera au stade Mayol.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec ce week-end le Grand Prix des Amériques sur le tracé d'Austin au Texas. C'est la 19e manche du championnat du monde. Deux temps forts ce matin. D'abord la course sprint qui a été remportée par Max Verstappen sur Red Bull. Le Néerlandais a devancé la Mercedes de George Russell et la Williams de Carlos Sainz. Autre temps fort, les qualifications pour la course principale qui aura lieu demain matin pour nous. Max Verstappen, encore lui, poursuit son très beau week-end puisqu'il a signé la pole position. Demain, au moment du départ, il aura à ses côtés la McLaren de Lando Norris. Au cœur d'un week-end compliqué, les Ferrari ont signé les 3e et 5e temps de ses qualifications. 3e temps pour Charles Leclerc, le 5e pour Lewis Hamilton. Satisfaction très très mesurée de Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia Ferrari.
Oui et non, oui, parce que c'est sûr qu'on revient, qu'on est mieux que les dernières courses et ça fait plaisir. Non, parce que j'ai aussi un peu le sentiment qu'on aurait pu faire mieux aujourd'hui, quoique c'est passé pas loin et que, bon voilà, maintenant la course est longue. L'année dernière, on partait de 3 et 5, je crois, et on fait 1 et 2. Donc tout est possible demain, mais ouais, un petit goût d'inachevé quand même. Pourquoi on peut faire mieux ? Oh, bah parce que je pense qu'on a toujours un rythme qui est un petit peu meilleur en course qu'en qualif, qu'on est plutôt de direction de la course et que ça va nous aider demain. Après. C'est pas donné non plus parce que je pense que c'est 6-7 voitures qui marchent et on a vu ce matin que dès qu'on est derrière quelqu'un c'est très très dur de doubler, donc c'est sûr que demain on a la stratégie, on aura une occasion de jouer quelque chose au moment du pit stop, mais c'est quand même difficile.
Et du côté des pilotes français, cette séance ne restera pas dans les annales. Isaac Hadjar a pulvérisé sa Racing Bull sans avoir pu signer le moindre temps de référence. Il s'élancera logiquement en dernière position demain. Pierre Gasly sur Alpine a signé le 14e temps, Esteban Ocon sur Haas le 17e chrono. Le Grand Prix des Amériques, 19e manche du championnat du monde de Formule 1, ce sera à suivre demain matin pour nous. Le départ sera donné à 6h de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sur 4 euros toujours en course au week-end, la 12e manche du championnat du monde des rallyes à l'issue des 14 premières spéciales. C'est le Finlandais Kalle Rovanperä sur Toyota qui est en tête du classement général. Il devance de 36 secondes l'Estonien Ott Tänak et de 44 secondes le Britannique Elfyn Evans. Quant à Sébastien Ogier qui était à la lutte avec Rovanperä pour la victoire finale, il a été victime hier soir d'une sortie de route. Il pointe à la 39e place du général à 49 minutes du leader. Autant vous dire qu'il ne reviendra jamais. Et puis de la MotoGP également, avec cet après-midi à ne pas manquer le Grand Prix d'Australie. C'est sur le tracé de Phillip Island. Le départ de la course principale longue de 27 tours sera donné à 15h. C'est le Français Fabio Quartararo qui s'élancera en pole position. Il aura à ses côtés sur la première ligne l'Italien Marco Bezzecchi et l'Australien Jack Miller qui courra forcément devant son public. Il est 19h, pas du tout, il est 12h28, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 23h, non, c'est